Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ce mois-ci, dans les sorties DVD Blu-ray, deux films de Peter Bogdanovich, Saint Jack et The Last Picture Show, et The Seven Ups, un préquel de French Connection, signé Phil D'Anthony. Dans cette partie DVD Blu-ray, nous débutons avec deux films réalisés par Peter Bogdanovich, édités chez Carlotta Films. Saint Jack, réalisé en 1979, et The Last Picture Show, la dernière séance, plus connue sous le titre français, la dernière séance réalisée en 1971. Saint Jack, surtout, avec Ben Gazzara, Damon Elliott et George Lazenby, donc réalisé en 1979. Nous sommes dans les années 70. Jack Flowers, joué par Ben Gazzara, ouvre un bordel à Singapour où il espère faire fortune et son ami, le comptable William Lee, joué par Damon Elliott, le Marcus Brody d'Indiana Jones, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le soutient dans son entreprise. Toutefois, Jack doit faire face à la pègre locale, hostile à son activité, et la réalité de la guerre du Vietnam intervient dans son quotidien quand la CIA lui propose d'ouvrir un bordel spécialement destiné aux soldats en permission. Le film est adapté du roman de Paul Theroux, Corson Welles, nous y revenons, recommanda au cinéaste. Welles, d'ailleurs, voulait un temps le réaliser avant de l'abandonner. Les droits du roman appartenaient à Playboy, qui est devenu coproducteur du film avec Roger Corman, qui avait à l'époque, des années auparavant, donné sa chance à Bogdanovich en produisant son premier film, La Cible. Les autorités de Singapour ne voulaient pas autoriser le tournage car ils n'appréciaient pas justement le roman qui dépeignait le pays comme un bordel pour soldats du Vietnam. Bogdanovich envoyait alors une fausse version du scénario intitulée Jack Valet de cœur, qui n'avait rien à voir et qui donc il a un peu dupé les autorités pour tourner son film. Il rencontra Ben Gazzara sur le tournage de Opening Night de Cassavetes, dans lequel il faisait de la figuration. Il engagea pour le rôle et c'était parti pour 6 mois de tournage à Singapour. C'est un film charnière dans la carrière de Bogdanovich qu'il tourna après plusieurs échecs successifs. Il s'identifia beaucoup au personnage de Ben Gazzara. C'est un film qu'il a voulu faire sur notre degré de moralité, dans lequel il a évité les clichés. Et c'est vrai que c'est un film très libre dans sa construction. Les dialogues ont parfois été écrits le jour, réécrits le jour même du tournage, avec l'intervention de Damon Elliott, qui joue donc son comptable, et qui intervient à 3 moments clés du film. On apprécie vraiment son regard particulièrement pertinent sur un monde post-colonial qui est très finement dépeint à travers cette galerie d'anglais arrogants et désabusés. Et puis, à l'image de l'interprétation de Ben Gazzara dans l'un de ses meilleurs rôles, une œuvre d'une nonchalance très séduisante.
You have been to Singapore before, haven't you?
Never, I haven't, but I've always heard it very pleasant.
Yeah, well, it depends on what you like.
Now, what did you have in mind?
You're not a squash player yourself, by any chance, are you?
No, Bill, I drink.
Hey, honey, what are you drinking? Hot chocolate, sonny.
Women here are all so attractive.
They're all guys.
Aren't you?
Hard to say what anyone is.
Personally speaking, I can never bring myself to pay.
Million people make love for so many crazy reasons. Why shouldn't money be one of them?
Huh?
Who's that black girl Judy just left?
She's so beautiful.
Yeah, she is.
You be careful.
I should forget about that house of yours, Jack. But it doesn't strike me as a very popular idea amongst the Chinese community.
You too, busy man.
There ain't no use you just looking now. Now, I like you, but I ain't turn you down.
You Italian?
Yeah, that's right.
Italian, good lover, bad husband.
That's what my mother always said.
Deuxième film de Peter Bogdanovich à ressortir, c'est La Dernière Séance, réalisée en 1971 avec Timothy Bottoms, Sybil Shepherd et Jeff Bridges. Très beau film sur les derniers instants d'une bande d'amis encampés donc par ces jeunes acteurs très prometteurs à l'époque dans un très beau noir et blanc. Première grande reconnaissance artistique pour Peter Bogdanovich qui avait été nommé aux Oscars pour ce film, sans doute l'un de ses films les plus célèbres. La Dernière Séance, il en parle dans un livre qui sort avec cette double édition en DVD, un livre de Jean-Baptiste Torret qui s'intitule « Le cinéma comme élégie », des entretiens donc que Torret a mené avec Peter Bogdanovich pendant de nombreuses années, et également avec ce livre, un documentaire « One Day Since Yesterday, Peter Bogdanovich and the Lost American Film » réalisé par Bill Take. Alors Antoine, quelques mots sur Peter Bogdanovich, qui est donc un réalisateur qui a été célèbre dans les années 70, après donc les succès de Jack's Picture Show, mais aussi de La Barbe à Papa, et dont se fait la valise Docteur. C'était vraiment un réalisateur célèbre à l'époque, il passait même un peu pour arrogant et prétentieux, et puis est intervenu un événement tragique dans sa vie, le meurtre de sa compagne, Dorothy Stratain, assassinée par son mari Paul Snyder pendant le montage de son film Et tout le monde riait, qui a donné lieu à un livre écrit par Bogdanovich lui-même, qui s'intitule
La mise à mort de la licorne. Alors d'abord, Bogdanovich, avant d'être cinéaste, c'est en quelque sorte un peu comme Truffaut ou Godard. C'est quelqu'un qui a été un historien et un critique de cinéma, et il est notamment connu, un peu comme Truffaut est connu pour ses entretiens avec Hitchcock. Bogdanovich a fait énormément d'entretiens avec de grands cinéastes américains. Il en a fait notamment avec Fritz Lang sur toute la période américaine de Fritz Lang, et d'ailleurs ces livres d'entretien sont édités chez Capricci. Et puis donc Bogdanovich, qui est quelqu'un qui a la plume facile, a effectivement écrit ce livre La mise à mort de la licorne pour raconter quelque chose de tragique, qui n'est d'ailleurs pas sans relation avec l'un des films que vous avez cité, puisque vous avez parlé d'un film qui a été produit ou coproduit par Playboy. Et il faut savoir que la mise à mort de la licorne raconte en fait l'histoire tragique d'une jeune femme qui est morte à l'âge de 20 ans. Elle était née en 1960 et elle est morte en 1980, qui était une personne qui s'est retrouvée embarquée dans le système de Playboy. Donc Playboy, ça a été le magazine de charme, le magazine érotique qui à un moment a réussi à devenir un magazine grand public, parce qu'on y trouvait des interviews de Jimmy Carter ou des articles sur les plus grands sportifs. Ceci mêlé à des photos de femmes dénudées. Et le patron de ce journal Playboy s'appelait Hugh Hefner et était un personnage très étonnant, qui à l'époque était flamboyant, qui vivait dans une espèce de manoir dans lequel régnait une débauche permanente, et il avait essayé à son époque de faire croire que le sexe est une fête, en tout cas ce sexe-là, et en réalité le monde du cinéma érotique et de l'image érotique telle que le vivait Hefner était quelque chose de tout à fait aussi sordide que le monde de la pornographie d'aujourd'hui, sauf qu'il y avait une façade qui était beaucoup plus avouable, beaucoup plus présentable, et c'est ça qui a fait que quelqu'un comme Peter Bogdanovich s'est retrouvé embarqué. Il était un des invités du manoir, et c'est là qu'il a rencontré cette Dorothy Stratain, qui était une magnifique jeune fille d'origine, je crois, canadienne, qui était extrêmement belle, mais aussi extrêmement intelligente. Quand elle a rencontré Bogdanovich, il a commencé à la faire lire. Ils avaient une relation qui était à la fois une relation très émoustillante, mais qui était aussi une relation très intellectuelle. Et effectivement, Dorothy Stratain avait été amenée dans ce système par Paul Snyder, qui était ni plus ni moins une espèce de macro. Elle avait été prise en pension par Hugh Hefner, qui avait l'habitude de coucher avec tous ses modèles, qui voulait absolument coucher avec elle. Et donc, il y avait une espèce de... Cette jeune fille très intelligente et très belle était sous l'influence tragique d'un macro complètement fou qui était Snyder, et de Hugh Hefner, était le grand patron de l'érotisme et qui évidemment avait des vues sur elle. Et là arrive Bogdanovitch, il y a une histoire d'amour très tendre qui se noue entre lui et Dorothy Stratten, mais il est en permanence sous la surveillance jalouse de Hugh Hefner et sous la surveillance complètement démente de Snyder, et l'histoire va se terminer en une tragédie terrible pour Dorothy Stratten. Et dans ce livre, Bogdanovitch dresse à la fois le portrait de cette jeune femme, extrêmement émouvant, mais il dresse aussi le portrait extrêmement grinçant de cette période de théoriquement de libération des mœurs qui était la fin des années 70 et le début des années 80, et où en réalité il y avait extrêmement des choses extrêmement sordides qui se passaient.
Oui, cet événement l'a tellement marqué que pendant le montage de Et tout le monde riait, qui est une œuvre de Bogdanovitch que beaucoup apprécient, d'ailleurs on le voit dans le documentaire, Tarantino notamment loue ce film, il décida brutalement de racheter les droits du film à la Fox pour lui-même le distribuer, et ça se passera pas très bien. Il finira ruiné, enfin en tout cas ça va le ruiner pendant de nombreuses années, et quelques années plus tard, sur un autre film qui s'appelle Mask avec Cher, il portera plainte contre Universal à cause des coupes imposées par le studio et la suppression de la musique de Bruce Springsteen. C'est dire que Bogdanovitch, à partir de cette période-là, aura moins la main sur ses films, sera beaucoup plus contraint par les studios et ne retrouvera pas la pleine liberté des années 70.
Mais on sent bien que Bogdanovitch, qui était quand même quelqu'un qui avait énormément le vent en poupe, mais qui était aussi quelqu'un qui considérait que le monde lui appartenait, va être totalement brisé par l'épisode de cette relation et de la tragédie qui va intervenir avec Dorothy Stratten. Il faut savoir que Dorothy Stratten, donc, qui était modèle, qui posait nu et qui détestait ça pour Playboy, mais c'était ce qu'elle avait trouvé. Elle espérait, comme beaucoup de personnes couvées par Hugh Hefner, que ce serait un chemin qui l'amènerait au vedettariat, alors que Bogdanovitch lui explique, il le dit dans le livre, il lui dit en fait c'est le plus mauvais chemin pour arriver au vedettariat, parce qu'une fois que tu as posé nu, les gens vont pas te prendre au sérieux si ta carrière a commencé comme ça. Bon, il y a des exceptions, mais quand même c'est pas en soi un bon chemin. Donc elle va détester ça. Elle va jouer dans un film de science-fiction érotique qui est évidemment un navet terrible, et évidemment Bogdanovitch va être heureux peut-être sauver sa carrière en la faisant jouer dans Et tout le monde riait, où elle est formidable, où elle joue très très bien, mais malheureusement la tragédie va arriver.
Voilà, et la carrière de Bogdanovitch s'en ressentira jusqu'à récemment, où il a montré évidemment son régulièrement, hein, son amour pour le grand cinéma américain, le grand cinéma classique, et j'ajoute qu'il vient de réaliser un très bon documentaire sur Buster Keaton, The Great Buster Celebration, présenté là au dernier festival Lumière, qui retrace la vie de ce génie comique, et particulièrement la vie d'après le cinéma muet, que l'on connaît moins, qui est assez triste d'ailleurs, et que raconte très bien Bogdanovitch, donc son documentaire The Great Buster Celebration, qui fait partie donc de la riche filmographie de Bogdanovitch, qui est retracée donc dans ce livre, aussi dans ce livre d'entretien donc de Jean-Baptiste Auray, dans lequel aussi Bogdanovitch parle beaucoup de mise en scène, avec des propos parfois un peu péremptoires, un peu terribles sur certains cinéastes, sur certains courants, sur le cinéma européen, sur le nouvel Hollywood. Il n'épargne pas grand monde, et d'ailleurs il dit cette remarque que je trouve assez cocasse, qui selon lui, le cinémascope c'est bon pour filmer les serpents et les enterrements. Voilà, il y a comme ça quelques phrases un peu définitives dans le livre, mais qui est très très savoureux à lire. Donc tous ces événements, toute cette actualité autour de Peter Bogdanovitch, donc ces deux DVD édités chez Carlotta, ce livre de Jean-Baptiste Torret, le livre de Bogdanovitch, La mise à mort de la licorne, tout cela donc est à savourer, est à dévorer sur ce cinéaste important et attachant. On termine cette partie DVD Blu-ray avec The Seven Ups de Phil D'Anthony, édité chez Wildside, réalisé en 1973 avec Roy Scheider, qui joue un flic membre d'une brigade spéciale, les Seven Ups, aux méthodes non conformistes, qui doit lutter contre de dangereux malfrats qui se mettent à rançonner les parrains de la pègre en se faisant passer pour des policiers. Le film est aussi interprété par Tony LeBianco et Richard Lynch. Le film a été connu plutôt sous le titre français Police Puissance 7, on préférera le titre original. Phil D'Anthony est à la base producteur de séries télé avant d'être le producteur de Bullitt et de French Connection. Le studio propose alors la réalisation de ce préquel. Hein. On peut dire que The Seven Up, c'est une sorte de préquel de French Connection, tourné entre le 1 de Friedkin et le 2 de Frankenheimer, reprenant le personnage donc de Sonny Grosso, joué par Roy Scheider dans le film de Friedkin, mais dont l'action se situe avant, à l'époque où Grosso était donc membre de ces Seven Ups. Pourquoi Seven Ups? Puisque c'était une brigade qui se destinait à arrêter des types qui en prenaient minimum pour 7 ans de prison. Il reprend, Phil Anthony, le style brut de French Connection, avec à nouveau Dan Ellis à la musique et comme cadre un New York urbain, sale et mal famé, très bien rendu. Une manière aussi typique des polars des années 70 de filmer les flics dans leur travail sans montrer leur vie privée. C'était Phil Anthony qui avait à l'origine insisté pour avoir une poursuite dans French Connection. Il récidive en réalisant à nouveau une scène de voiture très spectaculaire dans les rues New York, tournée jusqu'à 6 caméras durant un mois. Un morceau de bravoure marquant, tout comme la paire de truands jouée par Bill Hickman et Richard Lynch. Un polar incontestablement de bonne facture, hein, très bien mené, mais qui n'arrive cependant pas à la hauteur de son modèle et qui restera l'unique long métrage de Phil D'Anthony, qui poursuivra sa carrière de producteur à la télévision après sa tentative infructueuse d'adaptation du roman Cruising par un certain Steven Spielberg.
When organized crime becomes so clever that the police are forced to take desperate measures, it becomes hard to tell the cops from the killers.
Quick, Bobby! Bobby, get him!
Roy Scheider. In The French Connection, he helped to crack a $32 million dope ring. Now he's back, leading a new team of undercover super cops, even more ruthless than the mob they're gunning for. The Seven Ups. The dirty trick squad that even the regular police are afraid of.
Who shot the policeman in your car? I'm hurt bad.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.